Bonjour et bienvenue en Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Yann.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Dans Espérance aujourd'hui, nous abordons les questions d'actualité à la lumière de la Bible, afin de mieux comprendre notre monde et vous faire part de l'espoir que Dieu offre.
Aujourd'hui encore, nous nous penchons sur le problème des catastrophes naturelles.
J'en parle avec notre invité Flavien, qui est ancien dans une église dans le sud de la France. Il habite une région souvent touchée par de violentes tempêtes et des inondations. Flavien, nous avons appris que par les catastrophes naturelles, Dieu permet à sa création de se retourner contre les hommes à cause de leur méchanceté et de leur égoïsme. Aujourd'hui, nous allons terminer cette série de discussions avec la question « Que réserve l'avenir ?» Ces désastres continueront-ils à ravager la terre ?
Les disciples de Jésus se sont aussi préoccupés de la question « Que réserve l'avenir ?» Lisons par exemple Matthieu 24, versets 3, 7 et 8. « Jésus s'assit sur le mont des Oliviers. Les disciples vinrent lui poser cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il ? » Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ? Jésus développa sa réponse, dans laquelle nous trouvons des paroles se rapportant à notre sujet. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tous ces événements seront comme les premières douleurs de l'accouchement.
Et quel est le sens de ces paroles ?
Je pense qu'il y a deux choses à retenir. D'abord, la triste réalité que les catastrophes naturelles continueront à frapper les hommes, mais qu'un jour viendra, peut-être bientôt, où ces malheurs cesseront.
Et qu'est-ce qui vous permet de dire cela ?
Jésus prend l'image d'un accouchement et des douleurs qui le précèdent. Douleurs que beaucoup de nos auditrices comprendront bien. Tant que l'accouchement dure, ces douleurs sont intenses et elles semblent interminables. Pourtant, lorsque le moment de la naissance arrive, il est accompagné d'un complet soulagement, car les douleurs cessent.
Mais quel est le sens de cette image ?
Jésus déclare que nos vies sont maintenant marquées par des catastrophes et des douleurs de toutes sortes. Cependant, le moment viendra où ces choses cesseront, où les catastrophes naturelles ne troubleront plus notre existence. D'ailleurs, l'apôtre Paul reprend la même image et développe cette idée avec plus de détails.
Pouvez-vous lire ce qu'il a écrit à ce sujet ?
Oui, bien sûr. Il s'agit de Romains, chapitre 8, versets 19 à 23. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous soupirons nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps.
Ce texte me semble riche d'enseignements. Par où voulez-vous commencer ?
D'abord, nous retrouvons l'idée que la création, c'est-à-dire la terre et ce qui s'y trouve, souffre. Il est également sous-entendu que cet état est anormal, qu'il résulte de la désobéissance humaine et de la malédiction divine par laquelle Dieu, à travers la nature, cherche à avertir les hommes. Pour décrire ces choses, Paul, comme Jésus, se sert de l'image d'une femme qui accouche. Tout comme les hommes, la terre gémit à cause des douleurs qu'elle doit endurer. C'est la réalité de la situation actuelle. Toutefois, ce texte est rempli d'espérance, non seulement pour les hommes et les femmes, mais pour la création entière.
Pouvez-vous expliquer en quoi consiste cette espérance ?
L'un des mots-clés de ce texte est la liberté ou la délivrance. Les hommes, comme toute la création, sont captifs d'une situation qui les soumet à la souffrance. Cependant, cet état de choses n'est pas définitif. Notre destin est tout autre. Nous pouvons attendre la liberté et la délivrance.
Mais je remarque que, selon Paul, ce jour de liberté sera pour ceux qu'il appelle les enfants de Dieu. Alors, qui sont ces enfants de Dieu ?
Oui, c'est important de le souligner. Selon la Bible, on devient enfant de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Par exemple, l'apôtre Jean dit de Jésus « À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » L'apôtre Paul a également écrit « Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. » Alors, si vous ne croyez pas en Jésus, vous n'êtes pas enfants de Dieu. Et vous n'aurez aucune part à l'héritage qui attend ses enfants.
Mais pour revenir à ce jour de liberté, qu'en sera-t-il des catastrophes naturelles ?
Je suis convaincu qu'il n'y en aura plus. Actuellement, les hommes ne s'entendent pas avec la terre. C'est une façon de parler, mais les relations entre la terre et les hommes sont troublées, voire conflictuelles. La Bible donne à espérer qu'au jour du Seigneur, les hommes retrouveront une relation d'harmonie et de paix avec la nature. La nature ne sera plus une source d'angoisse et de labeur pour les hommes. Elle ne se retournera plus jamais contre eux. De même, les enfants de Dieu pourront jouir de la nouvelle création et ils n'en abuseront pas.
En dehors des écrits de l'apôtre Paul, y a-t-il d'autres textes dans la Bible qui soutiennent ce que vous dites ?
Oui, bien sûr. En parlant du jour du Seigneur, le prophète Ésaïe a annoncé ceci. Le loup habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble, et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits un même gîte, et le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Il n'y aura ni mal, ni violence sur toute la montagne sainte du Seigneur.
Voilà une belle image de l'harmonie et de la paix retrouvant leur place dans le monde naturel.
Oui, pour moi, il est évident que ce qui représente un danger pour les hommes aujourd'hui n'en sera plus dans un âge à venir, quand le Seigneur régnera pleinement sur la terre et dans les cieux. Aujourd'hui, nous craignons le lion qui rôde, l'araignée venimeuse, ou bien les tremblements de terre, la sécheresse et les inondations. Mais quand viendra le jour de gloire et de liberté promis par le Seigneur, il réunira les nouveaux cieux et la nouvelle terre d'où seront bannis tous les maux et les malheurs, y compris les catastrophes naturelles. Comme le dit l'apôtre Jean, la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu.
Il s'agit là d'une belle espérance, mais que faire en attendant ce jour quand on passe par les moments bien difficiles ?
Cette belle espérance doit nous nourrir, nous aider à tenir bon jusqu'à la fin. Si nous subissons la rude épreuve d'une catastrophe naturelle, sachez que Dieu est avec ses enfants. Il n'est pas indifférent à la souffrance. Il pourvoira à vos besoins et vous aidera à reconstruire ce que vous avez perdu. Sachez surtout que ce qu'il vous réserve dans l'âge à venir compensera plus que largement les pertes subies maintenant. Comme le dit l'apôtre Paul, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir.
Nous allons poursuivre le thème des catastrophes naturelles avec André. Il nous fera part de ses pensées sur un récit trouvé dans Matthieu chapitre 8, versets 23 à 27. Qu'Hélène va nous lire.
Il monta dans une barque et ses disciples le suivirent. Tout à coup, une grande tempête se leva sur le lac et les vagues passaient par-dessus la barque. Pendant ce temps, Jésus dormait. Les disciples s'approchèrent de lui et le réveillèrent en criant « Seigneur, sauve-nous, nous sommes perdus !»« Pourquoi avez-vous si peur ?» leur dit-il. « Votre foi est bien petite. » Alors il se leva, parla sévèrement au vent et au lac. Il se fit un grand calme. Saisi d'étonnement, ceux qui étaient présents disaient « Quel est donc cet homme pour que même les vents et le lac lui obéissent ?»
Jésus a accompli beaucoup de miracles, notamment lors de ce récit que nous venons de lire. Il a apaisé la tempête et a ainsi épargné les disciples d'une mort certaine et inattendue. Pourtant, depuis toujours, les catastrophes naturelles, plus ou moins importantes, continuent à frapper notre planète, emportant d'innombrables personnes vers une mort subite et laissant derrière elles non seulement des maisons et des biens détruits, mais aussi des cœurs brisés par les pertes et la souffrance. Une question se pose alors, pourquoi Jésus, qui a très bien pu arrêter une tempête il y a 2000 ans, n'en fait-il pas autant de nos jours? À quoi sert ce miracle relaté dans les évangiles s'il ne se répète pas aujourd'hui? La réponse se trouve, me semble-t-il, en ce que les miracles de Jésus nous donnent un petit aperçu de comment sera la vie quand il reviendra dans la gloire pour établir son règne éternel. Nous avons du mal à imaginer ce que sera la vie éternelle. Nous sommes tellement habitués à nos vies actuelles, ponctuées de joie, mais aussi d'épreuves et de malheurs. Mais la vie éternelle sera vraiment différente, et Jésus, lors de son ministère, nous permet de comprendre la beauté de cette vie promise à ceux et à celles qui espèrent en lui. Les miracles de guérison nous montrent que dans l'éternité, il n'y aura plus de maladie ni de malformation. Les miracles des résurrections vécues par Lazare ou le fils de la veuve de Nain nous montrent que dans l'éternité, la mort ne sera plus. Les miracles de la multiplication des pains et des poissons nous enseignent aussi que dans l'éternité, tous seront dans l'abondance. Il n'y aura plus ni pénurie ni famine. Et ce miracle de la tempête apaisée nous prouve qu'il n'y aura plus non plus de catastrophe naturelle. Ce conflit entre l'homme et la nature qui marque nos vies aujourd'hui disparaîtra. Nous retrouverons l'harmonie et la paix dans nos rapports avec le monde naturel. Du moment où nous mettons notre foi en Jésus, le Seigneur, nous avons un avenir prometteur, porteur d'espérance. Mais pourquoi le Seigneur tarde-t-il à revenir pour établir son royaume? La Bible ne nous donne pas de réponse à ce sujet. Elle nous enseigne simplement que Jésus fait preuve de patience envers les hommes et les femmes qui refusent de croire en lui. Car, pour de telles personnes, le retour de Christ sera porteur de jugement et non d'espérance. Par l'Évangile, Jésus offre à tous la possibilité de jouir du salut offert par Dieu et de toutes les promesses qui y sont liées. Le jour arrivera, tôt ou tard, où l'avertissement du jugement deviendra réalité pour tous ceux qui méprisent Dieu, et où les promesses s'accompliront pour tous ceux qui s'attachent à cette espérance. En ce jour-là, Jésus apaisera toute tempête pour les siens.
Nous constatons donc que même si notre époque actuelle est marquée par des catastrophes et des épreuves de tout genre, le Seigneur réserve aux siens un avenir merveilleux, la vie éternelle. Nous pouvons avoir l'assurance aujourd'hui d'y entrer. Il suffit de croire en Jésus, notre Seigneur, et de vivre à la lumière de sa parole.
Nous avons aujourd'hui terminé nos réflexions sur les catastrophes naturelles, et la prochaine fois, nous commencerons une nouvelle série sur le livre biblique des Proverbes. Au revoir et à bientôt.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.